éphémère, 89.1 MHz. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 17 septembre. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Tu vas bien?
Ouais, super, et toi?
Ah, un été magnifique qui nous laissera, qui restera dans toutes les mémoires à quelques jours de l'automne. Et oui, il pleut, il fait froid dehors, il grille. Et vous écoutez la radio éphémère avec vous jusqu'à 5h du matin. Comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision, puis le cahier du sport. Et à partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, c'est Illisi comme grille. 17h, vie d'ordure. 18h30, Clark Nova. Le magazine trotskiste révolutionnaire pour les étudiants en bac plus 18 et les ouvriers prolétaires. 20h, Blastero Experience. 21h30, Liquid Sky. Et 23h, Breakbeat Experience. Et puis voilà. Et en plus, il y a plein de choses à faire dehors en ville. Et ça, on en rediscute juste après le petit rappel de l'identifiant de la station.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Enfin oui, bon, je pense que c'est un peu prétentieux. Donc tout ça pour vous dire que parmi les choses qu'il y a dehors, eh ben il y a le forum des alternatives musicales et Thomas, le festival des fleurs.
La fête des fleurs. Le festival des plantes dans leur écrin.
Voilà. Je sais, c'est pas évident. Mais comme c'est sur mon baladeur les jingles et le morceau qu'on va vous passer, puisque aujourd'hui on passe que les morceaux alternatifs, donc il s'agit d'une des dernières sorties du Sweet Smelling Surfaces. Je vais y arriver, le label de Digitampopo, Valium, Waterworld. We'll be right back. Wallium, Waterworld Instrumental, sortie numéro 26 du label Sweet Smelling Surfaces, qui est donc un des labels que l'on ne retrouve que sur le net, et qui donc fait partie, oups, du forum des alternatives musicales, donc qui a lieu en ce moment, ce week-end, et qui est une recherche d'alternatives vis-à-vis, pas du piratage, mais bien évidemment du circuit de distribution des majors. Et sachez donc qu'il y a pour cette deuxième édition, c'est quoi, organisé par Another Records, et plein de radios, de labels toulousains. Ça a lieu par exemple à La Chapelle, qui est 36 rue Daniel Casanova, c'est derrière l'architecture stalinienne là du Conseil Général, vous pouvez pas le manquer. C'est l'espèce de reliquat catholique en plein pays communiste. Enfin non, je déconne, c'est un lieu autogéré, associatif. Et donc il y aura des concerts aussi à Sambarési, qui sont situés 38 rue Roquelaine. Donc voilà, c'est ce week-end, c'était depuis le avant-hier, voilà, jusqu'à demain, le Forum des Alternatives pour la Musique. Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme bon plan?
Oh ben, j'ai des petites plantes, si vous voulez aller faire un week-end tout à fait vert, c'est-à-dire aujourd'hui et demain se déroule le festival Les Plantes dans leur écrin, qui est organisé par l'association Jardin d'Eden, qui est à côté du jardin qu'on pense qu'à Farelli, jardin japonais et au centre des congrès.
Ah donc c'est à peu près tout dans le même lieu finalement.
Oui, c'est ça. Oh, ouais. Et donc il y a une soirée de gala organisée à 20h ce soir au Nouveau Hôtel Toulouse, au profit des enfants de l'école de Jianguan, parce que c'est le thème de cette année, c'est la Chine.
Oui.
Donc donc l'entrée est libre si vous voulez venir. Donc il y aura une expo vente de végétaux, d'artisanat d'art et de produits du terroir. Il y aura plus de 60 exposants qui proposeront leurs conseils pour embellir votre petit jardin. Je sais que Xavier, tu veux t'en faire un prochainement, donc
je n'en sais rien pour l'instant parce que
prends-en de la graine, hein. Il y aura le dojo zen de Toulouse qui proposera des initiations au zen, d'ikebana, de calligraphie, de raku, au pavillon de thé du jardin japonais. Et il y aura une conférence aussi sur l'esprit et le geste. Il y aura des animations dans le jardin Compense Caffarelli, des expos de peinture, d'aquarelle, etc. Et un atelier de taille, d'entretien, de réparation de bonsaï, enfin tout ce qui concerne les plantes de près ou de loin. Si vous voulez aller prendre des petites fleurs pour votre chez vous, allez-y, au jardin japonais, au centre des congrès.
Voilà, et tu es gentil de dire ça, mais pour l'instant je n'en sais rien, je crois qu'on est un peu dans l'expectative. On a un peu du mal à rigoler entre nous là, mais ça c'est un peu personnel. Donc on fait nos salutations à une copine qui s'appelle Iman, voilà, parce qu'en ce moment elle a pas trop envie de rire. Nous, heureusement, on va devoir garder le cap pour cette émission. Le programme est très chargé pour la suite. La semaine prochaine et pendant 3 semaines, il y aura le printemps de septembre, le festival de photographie, danse, art moderne et concerts d'ailleurs. Puisque Radio FMR co-organise le OFF, s'il vous plaît, on sera partie prenante. À partir de samedi prochain, il y aura des interviews et d'autres choses. Enfin, on n'en sait rien nous-mêmes encore à l'heure actuelle ce que l'on va faire, mais ça va être énorme pendant 3 semaines. Après, il y aura déjà sur son 31. Ensuite, il y aura plein, évidemment, on sera en plein cœur des sorties BD, des sorties littéraires. Il y a des DVD direct from Japan et le programme est très chargé. Un gros événement BD sur Toulouse qui s'annonce, c'est Pâques à Colomiers, et on arrivera à Noël. Et qui dit Noël dit après
Festival d'Angoulême avec vos envoyés spéciaux préférés.
Voilà, je pense que l'on va un petit peu souffrir. Bref. Et tout ça est pour vous dire que malheureusement, je vais devoir me séparer à tiers-temps d'un de mes animateurs.
Oui, parce que je suis appelé vers d'autres cieux et. Enfin voilà. On n'est pas mariés et puis.
On n'est pas mariés, merci. Erratum, ça rectifie dans les forums, et plus exactement en ville par Alex Masson. Alex Masson, on dit que non seulement c'est un ancien de Radio FMR, mais qu'il écrit dans des petits fanzines comme Les Inrecuptibles.
Non, première, j'étais déjà dit, et il te l'a répété plusieurs fois, qu'il n'était plus aux Inrecuptibles, et ça fait 3 émissions que tu
continues à dire. J'ai rien à foutre, c'est pour pas dire qu'il est à Nova. Donc voilà, alors figurez-vous que des coffrets les bonus du coffret Aibane Renmé, il y en a dans le DVD, mais ils sont cachés. Il y a quelques croquis qui sont dans les bonus cachés, effectivement, qui sont dans chaque DVD. Donc
oui, donc ça c'est un rectificatif par rapport à la chronique de la semaine dernière où Xavier avait chroniqué justement les Algérises, le DVD qu'il avait soutenu Mordicus qui n'en avait pas.
Voilà, j'avais pas soutenu Mordicus, j'avais dit qu'il y avait qu'un bête karaoké sur le dernier DVD, je trouvais que c'était un peu maigre. Voilà, ça m'apprendra à aller un peu vite. Mais toi, je tire l'œil, hein. Toi, tu es le chroniqueur cinéma, t'as pas intérêt à te planter. Ceci dit, on va peut-être y aller gentiment avec les chroniques
Revue de presse.
Revue de presse, oui, pardon. Excusez-moi, c'est pas une chronique. Oh, pardon, excuse-moi. Vous êtes pratiquement 60 à nous écouter sur les podcasts. Je rappelle qu'il y a eu une compétition qui s'appelle les podcasts d'or francophone.
Votez pour nous!
Voilà, c'est bouton d'inscrit. Mais il n'y a pas que le vote du public. Face à nous, il y a du très gros. Il y a RTL avec les grosses têtes.
Pardon.
Non, c'est... Pardon. À côté, il y a Arte Radio, comme ça, du Japon. Pom, 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 pom. C'est quand même des podcasts qui sont très intéressants. Je vous invite à les écouter, d'ailleurs. Ça vous changera un peu de ce que...
Notre blabla.
Voilà. Il n'y a pas que nous, loin de là. C'est aussi une manière de se composer sa propre radio, le podcast. Je pense qu'on en fera un sujet avec des podcasteurs. Et puis, voilà. Aussi, si vous voulez nous abonner à notre podcast, il faut aller sur le site web. Je bafouille de rire. Puisqu'on est enfin...
On a enfin le lien de l'émission est enfin sur le site officiel de Radio FMR.
On applaudit les web. Vous allez sur www.radio-fmr.net et là, laissez-vous guider et puis voilà. Et j'avais pas annoncé la revue de presse là.
Si, si, bon là on y est là.
On y est là avec Animeland, donc on en a parlé il y a 15 jours. Et oui, c'est vrai, j'en parle que maintenant. Je suis
c'est,
une.
C'est bien parce que les revues de presse s'étalent sur 15 jours maintenant.
C'est la nouveauté cette année. Avec donc Animeland numéro 114 signe la nouvelle formule et d'ailleurs ils ont mis un sticker blanc sur fond rouge pour signaler que c'est la nouvelle formule avec un logo qui a été rodé sur leur site web que personnellement j'aime beaucoup moins mais en tout cas il y a le bandeau blanc comme tous les magazines, c'est tous les magazines sont comme ça, vous voyez, vous avez le grand bandeau horizontal en haut, oui. Vous avez le nom du magazine qui s'étale à l'horizontale et le nom est répété incliné parce que vous savez pourquoi, c'est pour les marchands de journaux, voilà. Et oui, puisqu'ils les classent tous les uns autres, et oui, forcément c'est le moyen le plus rapide pour s'y retrouver. Animeland donc qui va signer un revue, un contenu qui est beaucoup plus orienté Japanimation, manga, c'est-à-dire beaucoup plus culture japonaise. À notre sens, c'est un appauvrissement. C'est bien dommage puisque il y avait pas mal de découvertes aussi bien sur les États-Unis, l'Angleterre, le Canada,
tous les films d'animation européens,
la Russie, un peu de tout. Oui, il n'y avait pas que européen, loin de là. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et aussi, les articles sont beaucoup plus ramassés, c'est-à-dire ils essaient de les faire tenir en une seule page. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, ça étouffe un peu. Mais bon, aussi, c'est parce qu'ils ont changé de police de caractère, etc. J'ai pas voulu compter les caractères, ça prenait trop de temps pour voir s'il y avait vraiment des changements, mais moi, je trouve ça un petit peu dommage. Par exemple, les articles maintenant, eh ben, il n'y a plus que deux dossiers. Il y a un dossier sur Full Metal Alchemist et un dossier sur Détective Conan. Le dossier sur Détective Conan tient en trois pages. Je trouve que c'est un peu court pour une série culte. J'en parle juste après. Accessoirement, il y a désormais des notations sur les séries. Les séries sont notées sur des catégories suivantes. Romance, sexy, mecha, violence, humour, fantasy. Mais alors quid des séries sportives historiques ou même simplement poétiques? Par exemple, Aibane se prendrait un zéro pointé sur toute la ligne. Ils essaient à peu près de classer les séries. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée.
Je tiens à signaler que nous avons parmi nous la présence de Manu, qu'on peut saluer. Bonjour Manu.
Dis bonjour au micro.
Salut. Voilà.
Moi. Attends, là, tu t'adresses, tu vois, t'es pas tout seul. Tu es face à des gens, alors vas-y, adresse-toi.
Bonjour, Manu, copain de Thomas.
Je suis nul. Copain.
Et, copain.
Ton univers, c'est l'animation et tout. On va tout à l'heure parler de Nezuka. Donc, si t'as des trucs à dire concernant des bêtises qu'on pourrait dire, vas-y, n'aie pas peur.
Ok. Je sais pas, puisque en plus, tu l'as pas lu, d'accord, puisque tu viens de me l'emprunter.
Si, si, mais.
D'accord, enfin bon. Ça s'appelle la timidité, je vous rassure, ça se soigne. Moi-même, j'étais timide avant que je fasse du judo. Prof était plus lourd que David Douillet. Donc, Animeland en kiosque.
Bon, mais c'est pas grave, c'est de la merde, de toute façon, on en a déjà assez parlé. Allez, hop.
Non, attends. Si tu dis que c'est de la merde, je donne ton numéro de portable à Yvan West Laurence, le rédac chef, et je te préviens, tu vas pas t'en sortir comme ça. Hein? Bon, d'accord, ok. Animeland numéro 114, 5,90€ en kiosque, et puis.
Tout ça!
Et oui, et je suis remonté parce que c'est un racisme anti-pingouin, puisqu'ils ont enlevé le pingouin mascotte, ils ont remplacé par une espèce d'écran. Bon, je trouve ça un peu dommage. Zouf! Oui?
Non, rien.
Bon, comment ça,
j'acquiesçais en disant, au lieu de dire ouais, je disais
Bon, d'accord, ok. On parlait tout à l'heure de Détective Conan. Le 47e tome vient de sortir dans la collection Kana chez Dargo. Moi, j'en suis toujours aussi fan. J'adore. C'est toujours le principe du whodunit.
Tu m'étonnes, après 47 tomes, j'espère que t'es fan.
Bah, c'est toujours le principe du whodunit. C'est-à-dire qui c'est qui a fait le coup, qui a assassiné un tel. On sait qui sont tous les protagonistes pour les amateurs des romans d'Agatha Christie et autres. C'est vraiment le bonheur. C'est pas du polar à la Raymond Chandler, etc. Bonjour du sport. Mais ceci dit, donc, dans l'ordre, vous retrouverez dans le 47e tome un meurtre dans une famille traditionnaliste d'un romancier à l'eau de rose, un hold-up dans une bijouterie et la mort d'un illusionniste. Y a pas à dire, je suis fan. Si vous avez vu Détective Conan sur France 3, oubliez, parce que la série est immondément coupée. Alors déjà, c'est une adaptation au Japon qui est faite pour les gamins, alors que le manga lui-même s'adresse plutôt aux lycéens et aux jeunes adultes. Le dessin animé lui s'adresse beaucoup plus aux enfants et France 3 a pris le parti d'enlever toute scène jugée violente, c'est-à-dire toute scène où on voit les cadavres parce qu'ils estimaient que ne vous arrêtez pas à ça, au contraire, il faut le lire, c'est intéressant et c'est une série culte. D'ailleurs, les chiffres sont absolument phénoménaux. Thomas, donne-moi quelques chiffres.
33, 27, 2000.
Merci, ça me fait un carton plein. Du sport vient d'arriver, il vient de rendre le bouquin de Tardy et Manchette qu'on a chroniqué la semaine dernière. Et c'est pas une bibliothèque de près. Hein.
Si, si.
Oh non. On va changer d'ambiance avec les voyages de Kael chez Delcourt. Le deuxième tome vient de sortir, Le secret des Glantines, et réalisé, c'est-à-dire scénarisé et dessiné par un auteur complet dont le nom est Raphaël Drommel-Schlager.
Ah non, c'est Schlager, pas Schlager.
Je savais que t'allais me
dire. J'avais parié avant l'émission.
Il m'a entendu répéter. Raphaël Drommel-Schlager, qui est donc un Toulousain et oui, pardon, du sport.
Ouais, alors Drommel-Schlager, c'est un petit peu allemand et ça veut dire le mec, le tambour, quoi. En fait, un Drommel.
C'est le joueur de tambour.
Schlager, c'est le mec qui tape, quoi.
C'est marrant parce que j'aurais vraiment fait la comparaison avec le joueur de tambour de Hamelin, parce que non, c'était un joueur de flûte. Eh oui, d'accord, merci. Merci, d'accord, ça s'appelle un gros plantage. Dans le premier tome de sa série, Kael perdait la mémoire. Kael, c'est un jeune homme qui a 30 ans. Il perdait la mémoire au fur et à mesure qu'il lisait un livre qui semblait raconter sa vie, mais dans une langue inconnue. C'était une histoire onirique qui avait séduit par son dessin, mais dont la happy end avait un petit peu gêné par une supposée simplicité et évidence de mes collègues critiques. Moi, personnellement, je m'étais laissé porter par le dessin et par l'histoire qui vraiment vous transporte, vous trimballe. Et alors, ça commence dès la première page, puisque ça nous trimballe dès la première image à 300 mètres d'ici, à la gare Matabio. Pour nous, c'est à côté. Hein. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas la couleur et qui n'habitent pas à Toulouse, qui nous écoutent par le net, mais en fait Radio FMR est pas très loin donc de la gare de Toulouse où partent tous les trains chouchou et compagnie. Et en fait, Kael prend un train de nuit et par hasard va trouver, c'est toujours dans les trains de nuit par hasard qu'on fait des rencontres les plus étonnantes. Kael va rencontrer un vieux monsieur qui s'appelle Kensington, assez énigmatique, qui dit connaître sa grand-mère. Et qui lui remet la clé d'une demeure familiale, justement où il allait se rendre, dans le village de Perdide. C'est une première coïncidence assez étonnante. Il va y trouver un tigre blanc, un dieu nordique et un sablier qui arrête le temps. Alors là, encore une fois, on se dit, mais dans quoi je suis tombé? Dans quelle réalité parallèle? Et ben, encore une fois, la poésie va emporter l'histoire dans des terrains difficilement croyables pour notre plus grand bonheur. Des souvenirs d'enfance qui nous font revenir de deux décades en arrière à l'âge de 10 ans et à des rêves tellement fous qui semblent inaccessibles pour l'adulte. Et pour cela, et ben, les voyages de Kael, il y a la chaleur du dessin avec une palette qui est très très chaude, un dessin qui est très éthéré et qui est vraiment très agréable à regarder, et voilà. Et Raphaël Drommelschlager, j'espère le recevoir pour qu'il nous parle justement de l'inspiration qui vient de sa série et qui est très agréable à lire. C'est aux éditions Delcourt. Le deuxième tome s'appelle Le Secret d'Églantine. Thomas?
Non, pardon. Là, je suis assez intéressé par le graphisme, mais je pense que je vais te la taxer aussi.
Non, mais ça va un peu, oui.
Ouais, non, mais c'est tellement. T'as tellement de BD chez toi, tu devrais me remercier à force.
Ouais, c'est ça, ouais. Un jour je vais me faire visiter, tu vois.
Pendant ce temps, saluons le bricolage de du sport qui est en train de nous bricoler un éclairage de fortune, mais s'il y a deux lampes qui ont rendu l'âme.
Parce que là... c'est vrai qu'il fait particulièrement noir dehors, et comme on est dans une cave, ouais. On ne voit plus rien là, parce que toutes les lampes ont grillé.
Ouais, ouais. Là, il m'a mis une lampe en face, là, on dirait que je suis dans un interrogatoire de CSI.
De CSI. Ben, ça tombe bien, figure-toi que le bouquin suivant, celui qui est dessous là.
Ouais.
Tu peux le prendre là, on va rigoler.
Alors,
je pense.
Tu enchaînes de CSI à
ça. Attends. C'est pas un hasard, c'est juste que il y en a qui sont tellement frustrés qu'ils aimeraient le faire, et voilà quoi. Je cale l'ambiance, voilà, j'attends que du sport descende parce que quand même il faut qu'il soit là pour non, il le sait, je l'ai eu par téléphone ce matin. Pour une fois on s'est concerté, donc
mince, l'émission est donc préparée.
Ah ouais, bah attends, vas-y, je coupe et tu mets ton micro. Eh ben non, vas-y.
C'est pas mal.
Ça tient, bon d'accord. Ouais, donc, le bouquin suivant, s'il vous plaît, je vous prierai d'arrêter de rire en coulisses, ça me déconcentre. Non, parce que Voyage de Kael, c'est un très bon bouquin, mais c'est pas un truc drôle. C'est pas ça qui fait rire, j'espère. Excusez-moi, oui, c'est que je suis en train de me tromper de fiche. Voilà, il s'agit de Léa Parker, l'adaptation de la série télé produite par M6.
Et tu rigoles?
Ouais, j'ai lu ça ce matin, quoi. Je suis tombé un peu sur le cul.
T'as lu ça?
Ouais.
Ah, tu l'as eu? Non.
Non, pas la BD, la news.
La news.
Ah oui, parce que je te l'ai dit. T'en prends-la, qu'on rigole. Si.
Non, mais tu rigoles, mais moi j'aime bien la couverture.
Feuillette-la, prends-la en main, déjà. C'est important que tu la prennes en main. Je veux pas que tu la.
Prends en main, Sonia Roland.
On dit pas de suite pourquoi. Bon, allez, Léa Parker, le premier tome s'appelle Victime de la mode. Léa Parker, il s'agit donc d'une série qui est produite par et associée, qui est une filiale, si je me trompe, de Téléimage.
Oui.
Pour M6 Édition, puisque c'est M6 Édition qui scénarise.
Tu as bon.
Le scénario est signé Bénès, qui édite, excuse-moi, le scénario est signé Bénès et Madoui. Ils ont pris un studio de dessinateurs qui s'appelle le studio 2HB. 2HB, c'est une... référence de crayon à papier, et on va dire qu'ils sont pas allés plus loin pour dessiner. L'avantage de la bande dessinée par rapport à la télévision, c'est qu'à moindre coût, on peut organiser une fusillade en plein Louvre. Et ben, cela révèle un peu, finalement, quand on lit cette bande dessinée, que Léa Parker se veut être un clone d'Alias frustré par le manque de moyens et d'un scénariste ambitieux. Pour vous dire, ils ont poussé jusqu'à rendre Sonia Roland l'actrice principale de l'histoire, voilà. Donc, personnage titre de l'histoire, absolument méconnaissable, mais seul perso à être dessiné entièrement. Les seconds rôles ne sont que des faire-valoir, un peu vite expédiés au dessin, limite manga. La méchante, un repompage de Kill Bill volume 1, ou je pense d'un film de baston, mais je ne sais plus lequel. Je crois que ça devait être une obscure production coréenne, je sais plus, de l'ouest, non, hongkongaise, américano,
bon, on verra
truc
ça,
mûche, hein. Tout le monde se met en ce moment en
quoi,
combi
c'est une,
jaune.
C'est une chinoise
Ah bah oui, facile. Ah oui, quand même.
Ah oui, d'accord.
Les hommes de main sont patibulaires à souhait, et le scénario digne d'un SAS, je parle des bouquins de basse facture. Vous savez, ce qu'on sort juste après les tiers d'impro provisionnels, vite. On a un peu trop touché cette année, on n'a pas mis de côté. Le pitch, la fille d'un mafieux repenti se prend pour une top modèle et doit être protégée alors qu'elle défile pendant la présentation des collections d'un grand couturier. Après c'est je t'en mets une sexy autant que je peux. Non Manu, tu la tiens en main la BD, c'est plus drôle. C'est-à-dire justement jusqu'au vernis sélectif qui recouvre uniquement l'héroïne. Le vernis sélectif, c'est en fait on ne recouvre pas entièrement la couverture d'une fine couche de latex, ce qui fait que on pose les mains d'une certaine manière suivant qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que vous transpirez ou non. Et le latex étant la matière fétichiste par excellence, je vous laisse imaginer ce que cela donne. La recette a déjà été utilisée par Glenna pour la série HK de 34 et Morvan.
C'est vrai.
C'est vrai. Et là, là, on rappelle au bas instinct, tâte-moi ça, hein, c'est du bon, c'est du bon. Hein. Enfin, personnellement, à mon avis, l'ex-Miss France, Sonia Roland, n'a pas dû voir ce qu'ils ont fait au bouquin.
Et avant. Madame de Fontenay non plus.
Madame de Fontenay non plus, effectivement, mais je crois qu'elle n'a pas grand-chose à dire. C'est vous dire où est tombée la production de séries télé françaises, alors qu'aux États-Unis, l'originalité des fictions du petit écran blat largement celle du grand écran. Léa Parker, victime de la mode, et ben à mon avis coupable d'une licence absolument hors sujet, c'est clair, à offrir au cousin de 14 ans pour lui dire que les 105B, les bonnets quadruple volume dignes de Lolo Ferrari, ça ne se trouve pas que dans les mangas de SF avec des robots. Et puis voilà.
Donc, en Léa clair, Parker, on peut dire que t'as pas aimé en fait.
Tome 1, victime de la mode. Produit par et associé pour M6 Édition de Benes et Maduy, studio 2HB, et je ne peux pas trop le dire, je l'ai reçu en service de presse, encore heureux. Du sport.
Oui, c'est un truc que j'ai lu ce matin et qui concerne justement le monde des séries et Léa Parker, c'est-à-dire Sonia Roland qui a reçu des appels du pied pour passer des auditions.
Du pied
de la part quand même du mec qui fait en ce moment les grosses audiences à la télé américaine, à savoir
Jerry Bruckheimer.
Pardon, pas de conneries, c'est pas de conneries.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce qu'elle va faire là?
Eh bien peut-être qu'on va adapter une certaine Léa Parker mais à la sauce américaine.
Bah, ils ont déjà Alias, quel intérêt?
L'intérêt c'est qu'ils ont les moyens et que peut-être ça va être beaucoup moins nul à l'écriture et scénario, hein. On parlait du focus group. Enfin, je ne sais pas, mais à mon avis, ce sera d'une bien meilleure qualité.
Qui c'est qui m'a piqué un CD, là?
Je suis largué. Hein, c'est toi qui a pris mon CD Bollywood, là, Shungon?
Ah non, je l'ai replacé devant ta machine.
Et voilà, Allez. C'est le problème quand on fait de la radio et qu'en même temps, on réalise. Ça devient vite le foutoir. Et c'est ça qui fout l'ambiance, ouais, c'est ça, tu peux noter, ouais. Je tiens à signaler que Bamboo Jungle Edition, que l'on connaît pour l'opportunisme, est allé très loin puisque eux-mêmes ils ont fait une adaptation de CSI en bande dessinée. Et je n'ai même pas osé la regarder, rien que la couverture fait peur.
Et après 24, on peut faire des pronostics pour la prochaine série adaptée.
Oui, Navarro. Je pense. Note au moins, il pourrait faire courir Navarro pour une fois.
Ouais, c'est marrant.
Bon, d'accord, ok. On arrête le chambrage et on continue.
Allez, prochaine BD.
Les sorties bande dessinée, voilà. Avec une ambiance là, yeah. Il s'agit de Spoon and White, le tome 6 s'appelle XXL. Enfin, moi j'aurais rajouté 2X de plus. Vous savez, c'est aux États-Unis actuellement, ils font des survêtements en format XXXXL. Ce qui paraît, c'est très tendance, c'est très mode. Et oui, vu quand on voit le pourcentage d'obèses, mais pas, je veux dire, à la télé américaine, en vrai, hein, au milieu des Américains, c'est assez étonnant. Scénario de Jean Léturgie et de Yann, dessin de Simon Léturgie, Spoon and White, tome 6 donc sort chez Vendouest. White, c'est un descendant, à mon avis, bâtard. Des pionniers du Mayflower, et Spoon, c'est un abo qui est fan de Clint Eastwood. Nous retrouvons donc les deux flics les plus crétins de la police new-yorkaise en mission spéciale, ramener une fiole de Graham 443, des pilules amaigrissantes miracles pour le commissaire adipeux, des pilules mises en vente au compte-gouttes, il n'y en aura pas pour tous les gros. Évidemment, mission ratée, il décide d'infiltrer le laboratoire pour amener des pilules, ainsi que Courtney Balcony, la journaliste de BNN dont ils sont tous amoureux libidineux, qui veut prouver que l'entreprise du médicament spolie une tribu amérindienne de ses remèdes en ayant déposé un brevet dessus. Ça, c'est une fois de plus un vaste débat. Comme d'habitude, il faut renifler chaque clin d'œil, pas uniquement les films de Clint Eastwood, parce qu'il y en a au taquet. Hein. Non seulement les bandes dessinées, puisqu'on voit du cubitus servi en gelée pour les chiens, mais aussi ou les films sur le cyclisme, ou encore The Big Lebowski, et plein d'autres. Enfin, moi, je reste absolument fan. Spoon and White, tome 6, XXXL chez Vent d'Ouest de des frères Liturgie et non Liturgie père et fils, excusez-moi, sur un scénario de Yann.
Et dis-moi, je vais faire mon petit candide, mais tu parlais de Clint Eastwood tout à l'heure. Il me semble que Liturgie, il a pas collaboré à des albums de Lucky Luke.
Exactement. Il a aussi fait des la jeunesse de Lucky Luke, il en a été spolié, donc il a fait la jeunesse de il avait créé un cowboy avec le même style graphique, etc. Ça lui a coûté un procès, comme d'hab. Et je passe la main à Thomas qui va nous parler du dieu du manga. On a commencé à en parler la semaine dernière.
Ah, Masami Kurumada, écoute, ça me fait plaisir. Hein.
Non, pas celui-là. Attends, mince, j'ai réussi à récupérer le CD de Metropolis exprès pour le passer, là.
Non, mais juste pour signaler avant.
Non, après, bon, pas là-dessus.
Allez, on va enchaîner avec le troisième tome de la biographie de Osamu Tezuka. Ce troisième tome couvre la période de 1960-1974. C'est chez Tezuka Productions.
C'est produit par la fondation Tezuka.
Et c'est chez Casterman Écriture.
Voilà, rapidement, parce que Tezuka, donc, c'est le créateur du Roi Lion, de Astro Boy, de Metropolis.
Pardon, comment t'as dit?
Astro Boy.
Non, le Roi Lion, t'as dit?
Le Roi Léo.
Roi Léo, c'est mieux, oui.
Et pour ceux qui nous écoutent sur Baladeur, ils vont pouvoir dire oui, il a dit Roi Lion.
On suit dans ce tome les débuts de Tezuka. Alors qu'il est déjà un artiste reconnu pour son travail dans la manga, il a déjà créé dans des tomes précédents Le Roi Léo donc, et Astro Boy, et ce sont ses débuts dans le film d'animation. On comprend dans ce tome qu'il a été extrêmement influencé par Disney, passant tout son temps au cinéma pour recopier certaines séquences animées du dessin animé Bambi. Il passait carrément sa vie au cinéma quand il n'était pas occupé à justement essayer de dessiner les planches en retard pour les différents éditeurs, la somme d'éditeurs dont il devait nourrir les magazines.
Il avait un volume de production qui était absolument
énorme.
Voilà.
Et c'est dans ce tome aussi qu'on le voit créer sa propre entreprise, la Mushi Pro, Mushi du nom japonais qui veut dire insecte. Parce qu'il a, dans le premier tome, on voyait qu'il était vraiment passionné d'insectes, etc. Donc, il s'était, à un moment donné, je crois, il avait pris le pseudonyme de Osamushi Tezuka, hein, c'est ça? Ouais, Manu, tu confirmes?
Ouais.
Et donc, on le voit en train de lancer des films d'animation commerciaux pour gagner du pognon pour sa production, mais aussi des films extrêmement expérimentaux. Et donc, on en a déjà parlé là, dans des précédentes chroniques des précédents tomes. Il a inventé également le stop motion, parce qu'il s'est dit, le stop motion, c'est une technique pour économiser des cellulos, faire coulisser des calques fixes pour ne pas avoir à animer des personnages et pas beaucoup d'éléments. Et il y a ils sont en train de constituer une banque d'images avec tout ce qui est mains, expressions, décors, bouger pour s'en servir dans des futurs épisodes.
c'est comme ça d'ailleurs qu'a travaillé pendant très longtemps l'industrie de dessin animé japonais, jusqu'à ce qu'il y ait un studio qui ait décidé de mettre un coup de pied là-dedans et qui s'appelait le studio Gainax.
Ouais. Et alors je vais faire un petit quiz, Xavier. Je vais te poser une petite devinette.
Aïe, attention, testons les animateurs.
Parce qu'il est écrit dans ce tome.
Oui.
Qu'en janvier 1965,
aïe.
C'est important la période, hein, janvier 65, ouais. Il reçoit une lettre des États-Unis. Il reçoit une lettre des États-Unis d'un mec qui est assez connu. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose?
Il faut que je devine.
Oui, parce que toi, tu as dit, t'étais un collab sur Tezuka, voilà.
Stanley.
Non. Ce n'est pas Stan Lee, le créateur des X-Men, etc. Non, c'est pas lui.
Je sais pas.
Il s'agit d'un réalisateur de cinéma, de films live.
Ouh, laisse-moi deviner, ce ne serait pas par hasard celui qui a fait 2001?
Eh oui. Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick, oui, c'est bien ce qui me semblait.
Voilà, hein. Il reçoit une lettre de Stanley Kubrick. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il lui dit, Stanley Kubrick?
Est-ce que vous voulez faire le storyboard de 2001?
Alors, storyboard peut-être, mais alors je vais te lire l'extrait précis du manga que je retrouve. Je suis un réalisateur de films travaillant dans une petite maison de production. En voyant Astro Boy, j'ai voulu vous écrire. J'aimerais collaborer avec vous pour les décors de mon prochain film de SF. Mais cela supposerait que vous resteriez environ un an avec votre équipe à Londres. Alors, sachant que Tezuka venait de lancer sa propre société d'animation. non. Voilà, donc Tezuka a refusé de travailler sur les décors de 2001.
Putain. Ça laisse rêveur.
Ça, on va laisser un blanc là.
Enfin bon, Tezuka c'est absolument énorme. Il a fait une pièce qui est diffusée, qui a été diffusée sur Arte. C'est un film en full animation qui s'appelle Jump. Où en fait c'est le monde vu d'un bâton sauteur. Et il a réalisé chaque intervalle, tout en crayonné. C'est assez étonnant.
Voilà, hein, la full animation par opposition au stop motion qui c'était des images fixes qu'on faisait coulisser devant une caméra. Et la full animation, c'est justement la technique utilisée par Disney où absolument la majorité des éléments à l'écran sont animés, ils bougent.
Voilà. Et on a oublié de parler aussi de Metropolis.
Ah non, on n'a pas oublié, c'était juste après. On a Metropolis qui est sorti chez Taifu Comics, manga culte d'Osamu Tezuka. Attends, je retrouve mes notes. Alors que le pitch, à la fin du XXe siècle, des taches noires apparaissent sur le soleil. On assiste à des dérèglements mystérieux, comme des invasions d'animaux mutants géants. Et Michi, un petit androïde, va naître dans le labo du professeur Lawton, immédiatement convoité à des fins criminelles par l'infâme Duc Rouge, l'ennemi public numéro 1, qui a un long nez d'ailleurs. Progressivement, alors que ses origines non humaines lui seront dévoilées, Michi va se lier d'amitié avec Kenichi, son camarade de classe, puis prendra conscience de la persécution dont ses congénères artificiels font l'objet. Peut-être que cette histoire vous dit quelque chose, car un film qui s'appelle Metropolis déjà a été diffusé en France d'après le manga de Osamu Tezuka.
C'est d'après parce que c'est pas exactement.
Ah
le
non
même
non,
pitch,
là, c'est là qu'on se rend compte effectivement la liberté qu'ont prise le scénariste Katsuhiro Otomo
et tous les autres
et le réalisateur Rintaro.
Rintaro, ouais, c'est une énorme différence, mais c'est là où franchement on se prend une claque. Si vous avez vu le film, vous avez vu des longs volets centraux, c'est-à-dire en fait quand on a un fondu au noir avec un cercle qui se rétrécit et tout, c'est pas un hasard parce que quand vous lisez cette BD, et ben vous vous dites mais c'est marrant, on dirait les Merry Melodies, tous les dessins animés des frères Fleischer.
Et
c'est de là que vient l'inspiration des mangas. Pour les regards des filles, ça vient des poupées françaises du 19e. Et pour tout ce qui est manga de garçons, eh bien, ça vient des dessins animés américains de l'entre-deux-guerres.
Et puis, on voit d'ailleurs dans cette manga toute l'influence qu'a eu chez Tezuka l'univers du film d'animation. On voit vraiment dans certaines pages, on dirait vraiment des storyboards. À un moment donné, on peut voir une page où il y a un personnage qui dit, ah, il est complètement paniqué, c'est une catastrophe. Et puis, on le voit en tout petit au début de la première rangée de cases. Et à la fin, ça fait une espèce de travelling comme un flipbook.
C'est assez étonnant. L'histoire, en fait, le pitch est vite expédié parce que c'est qu'une aventure, c'est une suite de péripéties,
oui, oui.
Un peu comme les premiers Tintins.
C'est extrêmement naïf.
Et
c'est
comme les premiers Tintins, c'est sa première œuvre. Hein. De toute façon, en même temps, il est étudiant en médecine et il fait plein d'autres choses. Mais d'un autre côté, il y a tout l'univers qu'il a construit, qui est littéralement énorme, qu'il habite. Il faut savoir qu'il s'est inspiré donc du film de Fritz Lang, mais qu'il n'avait pas vu. C'est-à-dire, la seule chose qui s'était inspirée, c'était l'affiche. Qu'il a repris à sa manière. D'ailleurs, dans l'édition de Taifu Comics,
oui, il y a un postface d'Osamu Tezuka où il explique justement sa.
Voilà.
Son processus.
C'est uniquement de l'affiche et d'une photo du film qu'il avait vu vaguement dans un magazine.
Ouais.
Donc après, ben on se. Voilà, c'est énorme. Comme quoi, les impressionnistes allemands ont fait la manga japonaise et ça n'est pas exclusivement, je veux dire. L'axe de fer de la Seconde Guerre mondiale qui les a vraiment inspirés, loin de là. Enfin bon, on en est absolument fan. On va changer de ton, je pense. Hein.
Ouais.
Et le ton, c'est bon. Hein. Vas-y, on va.
Ouais, sauf que. Ah oui. Alors attends, tu m'as honteusement spolié. Enfin, le. Sucré, ma petite, mais c'était pas, c'est une micro chronique, hein, je te rassure. Hein. C'est le 5e tome de Saint Seiya épisode G. Donc j'en parle à chaque fois, mais bon, on va juste signaler que le tome 5.
T'as pas l'impression des fois que tu parles dans le vide quand tu parles de cette série, je sais
pas. Non, absolument pas. Donc c'est les origines des Chevaliers du Zodiac. Ça se passe avant la série classique qui a été diffusée au Club Dorothée. Et justement dans ce tome, c'est assez intéressant parce que hormis le fait qu'il y a toujours des guerriers surgis nulle part en armure et tout, ça c'est chiant. Mais c'est chiant. Et là dans ce tome, on voit vraiment il y a le dieu Chronos, c'est le méchant de l'histoire, et il essaie de se défaire du sceau qu'a posé les gentils sur son arme ultime et tout. Et puis il essaie de réveiller les monstres mythologiques dans la Grèce. Alors on a une réapparition du Minotaure, de la Gorgone et tout, c'est ce qui est intéressant. Et des chevaliers d'or qui sont envoyés. Bon, d'accord.
Vous me rappelez quand il a fini ?
Ouais, c'est bon. Voilà.
Ah bon, ok, merci. Donc, oui, t'as oublié d'annoncer l'éditeur une fois de plus.
Ouais, Panini Comics.
Voilà, Génération Comics. Et le précédent, donc, par contre, il faut l'annoncer parce que c'est vraiment quelque chose à voir, à découvrir. C'est
allez,
là où
on récapitule les
mangas. On reparle de Tezuka. Donc,
voilà, la biographie de Osamu Tezuka, tome 3, c'est chez Casterman Écriture. Metropolis d'Osamu Tezuka, Taifu Comics.
Et c'est là où vous allez vous rendre compte, justement, toute l'évolution du manga, pourquoi on est passé d'un trait rond à un trait rectangulaire.
Voilà, c'est voilà. Bon, on a passé.
Et voilà, et là, voilà. On est sur un trait exclusivement rectangulaire que des gens ne supportent pas.
Bah, c'est
par
pas
rapport
vrai.
Au dessin beaucoup plus rond de Tezuka. Oui. Ah, c'est...
On peut aussi ne pas aimer Tezuka. Hein.
Débat technique que se parlent des gens qui fument la pipe, etc. Comme par exemple Albert Algou, que je salue, et qui vient d'abandonner la rédaction en chef de Fuite Glaciale. Et la rédaction en chef de Fuite Glaciale a été reprise par l'ancien rédacteur en chef de Spirou Magazine, à savoir Thierry Tinlot, celui qui a fait venir des dessinateurs de Fluide chez Spirou.
Cherchez pas. C'est beau crossover.
Voilà, donc voilà, et c'est Patrick Pinchard qui a reprend la suite, qui était le rédacteur en chef il y a 10 ans de Spirou Magazine,
oui,
et qui a été mon rédacteur en chef quand j'étais sur Actua BD, et que si, et que ça, et que vous êtes sur Radio FMR, et qu'il est 12h42, et qu'on va parler au DVD.
Je crois que t'as oublié quelque chose là. Hein. On n'a pas fini la BD là. Moi j'ai reçu un mail cette semaine. Bon bah.
Aussi, mais j'ai oublié d'en parler.
Monsieur Raymond Maric.
Exactement, qui est disparu donc le 11 septembre dernier. Voilà, c'était dimanche.
Ah.
Et
il a choisi son jour.
C'est vrai. Raymond Maric.
C'est con parce qu'il va être oublié, quoi.
C'est bien
on
dommage.
Oublié, hein, le jour de sa mort, Raymond Maric, c'est quand même un mec vachement assez connu hein, dans le monde de la BD. Il n'y a pas de problème.
C'est lui qui a lancé la bande dessinée populaire en France, qui détonne.
Voilà, tout simplement, hein, c'est-à-dire la forme populaire et la forme, on va dire, moderne, on va dire, par opposition à ce qu'il faisait avant, les livres illustrés, ce qu'on appelle les journaux illustrés, hein, il y en a un qui s'appelait l'illustré d'ailleurs, hein, où il y avait des dessins.
Les patents aussi, où il a collaboré.
Les patents, ouais. Parce que dans l'époque, bon, bah, la photo n'était pas aussi développée, était encore un art... et une technique réservée aux plus riches, et donc il y avait très peu de photos dans les journaux, hein, dans les journaux qu'on pouvait acheter. Donc c'était des dessins ou des gravures, hein, ça a été l'âge d'or de la gravure au siècle dernier, c'est-à-dire au 19e siècle, puis est apparu le dessin un petit peu plus simple, et la création, on va dire, hein, d'histoire propre, ou voire de bandes dessinées, elle date à peu près de cette époque, hein, c'est-à-dire le début des années 20, début des années 30, avec l'apparition de trois jeunes gens qu'on connaît vachement bien, enfin moi qui ont vachement bercé mon enfance, hein,
ouais,
les pieds nickelés.
Et qui font énormément référence encore, et pas seulement dans la bande dessinée ou dans le cinéma, puisqu'on parle encore de pieds nickelés, ben, par exemple pour... on va dire quand on parle d'un parlementaire français qui va libérer des otages en Irak,
voilà,
etc.
Ouais.
C'est vous dire que c'est vraiment rentré dans la culture populaire.
Il faut savoir que Raymond Maric était à l'origine de ses pieds nickelés, mais en compagnie d'un certain dessinateur qui s'appelle Forton, hein, qui a été le premier à dessiner les pieds nickelés. C'est le moins connu. Le dessinateur le plus connu de la période des pieds nickelés est bien entendu Pelos. Hein, qui a dessiné après la mort de Forton, qui est survenu je crois dans les années 40, il me semble, fin des années 40, hein, c'est Pelos qui s'y est mis pour une quinzaine d'années tranquille, et ensuite ils ont un petit peu passé la main, mais il faut dire qu'à l'époque, fin des années 60, les pieds nickelés étaient un petit peu tombés en désuétude. Pourquoi ? Parce qu'il y avait également d'autres bandes dessinées et d'autres auteurs, beaucoup d'autres auteurs, hein, qui un petit peu la nouvelle vague, hein, de Pilote, Tintin, Spirou, et qui avaient pris un petit peu le dessus, et ça avait un petit peu, on va dire, ça avait mal passé le temps. C'est un petit peu dommage parce que le pied nickelé, bon bah c'est quand même une bonne dose d'irrévérence,
oui, mais c'est
des vannes bien grasses,
c'est assez
genre la mer est belle, tu sais, ils sont à couder un bastingage sur un bateau, la mer est belle, et puis t'as Philochard qui répond oui, il faut toujours se méfier des belles mers, enfin bon, des trucs comme ça.
C'est assez énorme.
Non mais ça vaut le coup quand même. Disons, les histoires étaient quand même assez. Parce que bon, c'est quand même l'histoire de trois mecs qui se démerdent, qui essayent de toutes les petites rapines, ils essayent de gratter au maximum, de pas travailler, bien entendu. Hein, c'est ça le but du jeu de toute façon. Hein. Donc c'est des voleurs, hein, c'est des petits salopieux, des petits schnappants. Et ce qui est quand même assez amoral, c'est que à la fin, ils arrivent toujours à se démerder, à s'en sortir, quoi. Hein, ça qui est assez rigolo. De toute façon, voilà. Donc Raymond Maric, paix à ton âme.
Qui était
voilà,
né en 1927, qui était passé en 1927. Je tiens à signaler juste une chose, qui continuait à produire des séries de bandes dessinées. Il était loin d'être inactif, puisque les dernières séries qu'il a sorties, il y avait Morin Lourdel avec Baron Brumaire chez Glénat, Courtisane avec Pierre Frisano, où on est entré un peu dans l'antre de Louis XIV, etc. Enfin, ceux qui espéraient l'approcher. Il y avait dans la collection Bulle Noire la série Relations Publiques, qui était pas mal du tout, qui continue encore hein. Théoriquement, il venait d'éditer avec Manini au dessin la série Estelle, ainsi qu'un album Moi l'arbitre, c'était chez Carabas. Donc il a vraiment eu une production BD qui ne s'est jamais arrêtée. On va faire une coupure musicale, oui. Parce qu'il est 12h46 sur la poubelle des radios, Radio FMR, supplément week-end. Aujourd'hui, c'est les 20 ans d'un jeu vidéo. Voilà. Et comme...
Essayez de deviner lequel c'est.
Devinez lequel c'est. Et ensuite, c'est une reprise que l'on est allé choper sur OC Remix, Overclocked Remix, parce que justement, aujourd'hui, c'est le forum alternatif des musiques, donc des distributions alternatives. Pardon, j'avais oublié de monter le micro.
Ouais, est-ce que vous avez deviné le jeu dont il est question et qui est remixé ?
Bah, je dirais juste que le constructeur est en 8 lettres, puisqu'on n'a pas le droit de donner des marques, et que lui-même, c'est une marque.
Ah merde.
Mais il a été adapté au cinéma, donc on peut dire que c'est...
Ouais, avec Dennis Hopper, John Leguizamo et Bob Hoskins.
Bonne mémoire.
Excellent.
Voilà.
Très bon film.
Et que c'est... Hein ? Et que Super Mario Bros, dont il est question...
Je l'ai vu deux fois.
Super Mario Bros dont il est question, c'était pas le premier jeu, puisque auparavant c'était un des personnages de Donkey Kong, et en fait enfin c'était bien éclaté.
Allez, on a changé de fond sonore pour saluer la sortie en DVD de la série de Shinichiro Watanabe, Samouraï Champloo.
Attends. Faut dire qui est le monsieur. Le monsieur, on le connaît très bien.
Ouais, il a fait une série qui s'appelle un peu Cowboy Bebop. Voilà.
Voilà.
Et puis il a fait un épisode d'Animatrix. C'est le polar en noir et blanc.
Bon, Cowboy Bebop. Faut peut-être annoncer ce qu'est cette série, pourquoi elle est si bien.
Une série si bien, de ce qui se passe dans le futur, voilà.
De façon, série de SF western, où il est question de chasseurs de primes, mais c'est surtout pour la bande-son, puisque les producteurs japonais ont mis dans les épisodes la moitié du budget systématiquement dans la bande-son, et dedans on retrouve les tambours du Bronx, on retrouve des musiciens de studios de Nashville, il y a vraiment eu du très 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 gros monde dedans, quoi. C'est énorme. Voilà, 8 mais... albums, 8.
Mais bon, Watanabe, c'est pas l'homme d'une seule série. La preuve avec Samouraï Champloo, qui est une série également de 26 épisodes. Alors le Champloo, c'est pas le shampoing, hein, c'est la recette d'Okinawa. C'est une recette d'Okinawa qui est un, ça veut dire un pot pourri dans lequel on met tout ce qui traîne à la cuisine. Voilà. donc pour cette série, il y a trois des plus grosses pointures de l'animation japonaise qui se sont réunies. Outre Watanabe, on a aussi Kazuto Nakazawa qui était designer pour la série animée Kill Bill Volume 1.
Oui.
Enfin, la section animée.
On y revient encore.
Et Mahiro Maeda qui avait bossé sur Last Exil. Le pitch. Mugen et Jin sont deux ronins, donc ça veut dire sont des samouraïs sans maître, que les styles et les valeurs opposent, autant le premier est impétueux, autant le second se réfère sans cesse au Bushido et il parle pas beaucoup. Ils vont croiser Fu, une jeune serveuse dans le salon de thé part en fumée à cause des deux premiers, au début de la série, et qui va les forcer, suite à un pari, à l'accompagner dans un périple à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Sauf que si vous connaissez un peu les fleurs, vous apercevrez que les tournesols, ça sent pas tant que ça en fait. Donc que dire sur cette série, que les personnages sont super attachants. Mugen, c'est le gentil fou acrobate, il est obsédé par les gros seins et la bouffe. Et Jin, c'est le ronin qui parle peu, il est toujours droit comme
taciturne.
Un peu taciturne, ouais, et pourchassé par des ex-collègues de son dojo. Et on a Fou aussi, qui est la jeune fille qui apporte son quota de fraîcheur de la série.
D'accord, c'est le fan service, quoi.
Le
fan service. La petite culotte là. Oh, j'ai eu 3 pixels.
Ouais, enfin un peu
là.
Sauf qu'elle a pas trop de poitrine et elle est complexée par ça justement. Et comme l'autre, il adore les gros seins, il arrête pas de la vanner pendant toute la série, c'est assez rigolo. Alors on est plongé dans l'univers de l'ère Edo, c'est la fin des années 1880.
La fin de l'ère Edo, surtout, c'est une période importante, c'est ce que l'on appelle juste avant la restauration Meiji, où en fait l'empereur va revenir au pouvoir après des années où c'est son premier ministre qui régnait littéralement sur le Japon, et où plein de samouraïs sont retrouvés justement sans foi ni loi, des ronins.
Et on est plongé dans la persécution des chrétiens, on voit des hommes d'honneur quittant la série en faisant Akiri. Des plutôt grands cœurs, des bordels, mais aussi un gang de taggers, un frimeur venant sur des cœurs hip-hop de ses acolytes, ses gosillons dans des faux micros, et lui il fait
des discours MC, la beatbox et tout ça.
Voilà. On a un Hollandais vainqueur d'un concours de nourriture, etc. Moi, c'est super délire. Mais la série, autant elle brille par ses personnages et elle brille également par sa réalisation qui est à tomber par terre, il n'y a pas de problème. On a un rendu extrêmement réaliste sur les mouvements des corps, autant dans les combats, les déséquilibres sont parfaitement rendus. Quand il y a une hanche qui bouge, et le reste suit du corps.
C'est plutôt rare.
À toutes les séries, ouais. Comment il court, chacun a sa propre façon de courir. Le samouraï avec l'habit qui va avec, il courra pas de la même façon qu'un mec en short. La façon de marcher, les différentes techniques de sabre, etc. On a des plans qui sont à tomber avec des plans subjectifs pendant un combat de sabre. Avec des flous dans le fond, des nets au départ, le sabre.
Une vraie profondeur de champ.
Ah ouais,
une vraie
profondeur de champ. Hein, quand il fait un mouvement de sabre, on a une caméra, le sabre à la fin il est flou et au début il est net. Enfin, c'est que des trucs comme ça qui sont, quand t'es attentif, c'est vraiment frappant.
Oui, enfin, quand t'es un spécialiste de l'animation, j'en ai deux sur le plateau, alors ils sont professionnels, je vous rappelle.
La caméra bouge tout le temps, elle est rarement fixe. C'est comme si quelqu'un filmait caméra à l'épaule, comme un reportage qui suivrait le parcours chaotique des trois protagonistes. On a un générique également qui tabasse sa mère avec en bande-son un rap extrêmement lent, le générique graphiquement superbe.
On se souvient de Cowboy Bebop qui en fait était une reprise directe de Manix, si je me souviens bien. C'était avec les fonds colorés et tout. Wow, c'était énorme.
Et faut savoir que la série va être diffusée à partir de demain sur Canal+.
En clair? Non. En clair.
Ça, je sais pas, par contre. Les séries animées, je crois qu'il les diffuse en clair. Hein.
À quelle heure? Non, pas tous.
Pas toujours.
À quelle heure il le passe?
Je sais pas à quelle heure. Manu, t'as un truc à dire?
Ouais. Non, enfin, je pense que si ça passe avant les Simpsons, il y a des chances que ce soit encrypté, mais...
Ah, dommage.
Vous pouvez trouver cette série en DVD chez Didex, avec deux coffrets collecteurs de
Dynamic
13 épisodes
Vision,
chacun.
Hein, pour ceux
voilà,
qui,
ex voilà. Dynamic Vision, avec deux coffrets collecteurs de 13 épisodes chacun, suivi par 6 unitaires avec des bonus cachés.
En coffret directement.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il y a comme bonus
Je sais pas, j'ai pas pu voir le coffret. Pourquoi t'as mis derrière la tête?
Attends. Tu m'as fait le planning là. Sur le planning, tu m'as dit ça sort, je l'aurai.
Le 15 septembre.
Je l'aurai, oui.
Sauf que c'est reporté et puis
D'accord. Alors tu t'es foutu de ma gueule à propos donc de la chronique d'Aiban Erenmé et que
bon, c'est pas faute non plus, c'était reporté à début octobre.
Bon, d'accord. Bon, du sport est avec son Libération, il essaie de trouver en catastrophe, il a pas trouvé, tant pis.
On rappelle juste les références de la série, ça s'appelle Samouraï Champloo, c'est une série animée de 26 épisodes réalisée par le réalisateur de Cowboy Bebop et c'est diffusé sur Canal Plus à partir de demain et disponible en DVD à partir de la première semaine d'octobre.
12h57 du sport.
Oh, attends, excuse-moi, j'ai oublié de dire que c'était disponible en manga également, chez Soleil. Voilà, excuse-moi du sport, vas-y.
Sonner guitare, résonner trompette, tambour plutôt. Une deuxième nécro dans la gueule pour commencer. Allez, ça vous en avez entendu parler à la télé. Il s'agit de la mort de Robert Wise, grand réalisateur américain.
Entre autres,
hein, bien entendu, on a retenu
La Maison du Diable.
La musique, hein. Revisité par Alice Cooper, ok.
C'est quoi?
C'est Alice Cooper et d'après la musique de West Side Story.
Voilà.
T'as pas regardé,
j'ai jamais vu le film.
La première fois que tu regardes, c'est hyper chiant. Quoi. Si tu t'intéresses pas à la danse, c'est chiant, mais alors grave, vraiment grave. Mais quand tu commences à t'intéresser à la danse, à ce qui se passe à l'intérieur, c'est une des comédies musicales qui me plaît le plus, de toute façon, hein, de toutes les comédies musicales qui ont été tournées. Hein. Je suis pas un grand amateur non plus. Hein. Robert Wise est né en 14, hein, ça fait que il est mort quand même vachement vieux, 91 ans le mec, ouais, wow. Cool, hein, il a eu le temps de voir quand même. Il a commencé sa carrière dans le cinéma en étant monteur, mais monteur, il a quand même fait des trucs assez sympathiques, tels que le montage de Citizen Kane, il a embrayé sur les Magnificent Ambersons, la Standard des Ambersons, ouais. Un autre Wells, bref, pas mal, et c'est carrément par accident que le mec il se met à réaliser des films parce qu'on lui demande de supplanter, enfin pas de supplanter, mais enfin de remplacer J. Von Fritsch sur le tournage du film The Curse of the Cat People, la malédiction des hommes chats en 44, qui était dans l'esprit, il était monteur à l'RKO et qui donc pour ce boîte était dans l'esprit là un petit peu la suite The Cat People, hein, le film de Jack Turner qui avait été tourné 2 ans auparavant, 42.
T'as entendu comment il a dit Jack, hein?
Oui, Jack.
Jack.
Non, mais on peut dire Jack Turner parce que Jack est le fils de Maurice, et Maurice s'est installé au début des années 10, je crois, hein, en 1915. Il s'est installé avant. Maurice est né en 1861, hein, c'est le papa, donc il a commencé à faire du cinéma pratiquement en même temps que Méliès, à la fin des années 1900.
Ouais, donc c'est les pionniers, quoi.
Il a tourné en 1920, il a déjà tourné au moins 30 films, quoi. Enfin, bon, tu vois un petit peu le genre. Et il s'est exilé aux États-Unis, et son fils Jacques est né aux États-Unis, est né à New York, donc on peut l'appeler Jacques, hein, sans problème. Ok. Alors, j'en reviens à Jack Turner, qui dans la même période, hein, c'est-à-dire après Cat People, qu'il a rendu un petit peu célèbre, on va dire, il a tourné un autre film qui a été un des premiers films de zombies, quand même, I Walked with a Zombie, hein, qui est sous-titré Vaudou en français en 43, et un autre, parce qu'à l'époque c'était les stats canonistes qui tournaient minimum 2 films par an, voire 3, hein, sans problème. En 43 également, Jacques Tourneur, c'était Leopard Man. Voilà, ça c'est une petite parenthèse sur Jacques Tourneur par rapport à The Curse of the Cat People. En 45, il fait The Body Snatcher. Avec quand même Boris Karloff et Bela Lugosi dans le même film.
Bon, yo,
tourner d'autres ensemble. Enfin là, bon, c'était quand même l'époque.
Les amis.
C'était l'époque où Karloff était pas trop vieux et Lugosi pas trop camé. Enfin bon. En 46, et je vous passe pas tous les films parce que il y en a vraiment trop. Hein. Il tournait, il faisait pratiquement deux films par an. Hein. De toute façon, le père Wise aussi. En 46, Born to Kill. En 49, un monument quand même, un des meilleurs films sur la boxe, nous avons gagné ce soir, The Setup en version originale, je sais pas, on a rarement fait mieux hein, au niveau film sur la boxe. Raging Bull est vraiment en bas quoi par rapport à ce film hein, déjà. Il a tâté de tous les genres, Robert Wise.
Tu l'as chez toi
façon,
le
quoi.
Film de The Setup
Il me semble, ouais. je regarderai. En 51, c'était un réalisateur qui donc s'intéressait à tous les styles, enfin s'intéressait, faisait dans tous les styles. Hein. Il a fait également de la science-fiction, un film connu. 51, The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta.
C'est Robert West qui l'a fait.
En 56, un petit peu de western. Et alors là, attention, du western couillu, The Tribute to Bad Man, La Loi de la Prairie. Pas mal, hein, bien pour l'époque. La même année, donc un autre film de boxe vachement connu, un petit peu moins bien, mais qui est quand même pas mal inspiré de la vie de Rocky Marciano, hein, Somebody Up There Likes Me, marqué par la haine. Un film un petit peu connu quand même. En 58, I Want to Live. Et là, en 61, bien entendu, c'est la consécration, la première consécration avec West Side Story, hein, qui tranche un petit peu. On sortait d'une période, d'une décade florissante, magnifique, hein, due à de nombreux réalisateurs qui aimaient ça, Zigbee, Berkeley, Vincente Minnelli et bien d'autres, la comédie musicale américaine, et avec l'aide de Jerome Robbins, on dit que c'est Robert Wise qui a réalisé le film, mais il faut dire que le chorégraphe, Jerome Robbins, qui a composé toutes les chorégraphies pour ce film, avec la musique de Bernstein bien entendu, c'est lui qui co-réalise le film, on va dire, hein. C'est plutôt du 50-50 quand même, et c'est ce qui a voulu c'est ce qui a valu d'ailleurs à ce film d'être tellement reconnu. C'est aussi par la qualité novatrice au niveau de la danse, hein. La danse est complètement différente, l'art de danser est complètement différent dans West Side Story par rapport aux comédies musicales qu'on a pu voir un an voire deux ans auparavant avec Sid Charry.
Les prouesses des danseurs n'a rien à voir avec
la technique de danse n'a rien à voir. Ce n'est plus une danse vraiment classique. Il y a des pas de modern jazz, des combinaisons tout à fait inédites, hein, qui ont fait hurler les puristes à l'époque. Hein. C'était vraiment on a tapé sur ce film comme si c'était pas permis, ce qui n'a pas empêché qu'il rencontre un franc succès. En 62, pour se reposer, une petite amusette qui s'appelle Two for the Ciseau, deux sur la balançoire. Mais en 63, il récidive le bourg avec The Haunting, la maison du diable. Alors là, attention, là, n'en jetez plus. C'est bon, on a compris. Et l'année suivante, il se dit, bon, on va se calmer, on va se reposer. The Sound of Music, la mélodie du bonheur avec Christopher Plummer. que du bon. Et bon, il se décide que bon, après la mélodie du bonheur, ça c'est aussi le gros succès, hein. Il a eu plus de succès avec The Sound of Music. Et avec ses films ultérieurs, d'abord certains de ses films ultérieurs qu'avec West Side Story. En 66 quand même, il nous fait un petit Steve McQueen, la canonnière du Yangtze, The Sound People. En 68, le film pour lequel il a eu le plus de succès, c'est-à-dire pour lequel il a engrangé le plus de bifton. Et c'est ce qui a plus ou moins c'est un petit peu le film qui l'a cassé, parce qu'après il a plus sorti que des gros blockbusters, enfin ceux qui se voulaient être des gros blockbusters. Le film en 68 s'appelle Star, il est pas très connu en France, hein, aux États-Unis. Attention, ça a boosté à fond les manettes, hein, ils ont engrangé un max. Après, il a fait quelques blockbusters style Hindenburg, des trucs comme ça, et termine sa carrière cinématographique parce qu'après il a encore tourné pour la télé. Il était déjà vieux, hein, près de 80 ballets le mec, près de 70 ballets. C'est lui qui nous fait le premier Star Trek, en 79. Eh ouais, monsieur Robert Wise.
L'adaptation cinéma, c'est lui qui...
L'adaptation cinéma, exactement, voilà. Et il a continué encore à faire quelques petits téléfilms, des petites participations. Voilà, tout ça, c'était réalisé par ce monsieur qui vient de disparaître, donc monsieur Robert Wise. Putain, attends, non, il faut que je tourne la page. Voilà, c'est ça, quoi. J'allais balancer tout le truc.
Attends, il faut expliquer quand même aux auditeurs que maintenant, Dusport a investi dans un cahier sur lequel il écrit ses chroniques. Avant,
non, c'est le vieux truc que j'avais il y a des années.
Vous écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR de 13h05 et si vous voulez nous entendre bâcher en direct entre nous et si vous voulez réentendre les blagues, vous pouvez nous télécharger maintenant, c'est sur le site de la radio www.radio-fmr.net.
Maintenant, quand tu diras le programme de l'émission avec le cahier du sport, eh ben, ce sera ça, le cahier du sport.
Le cahier du sport, voilà, c'est ça.
Attends, il y en a, j'en ai prévu là. À la télé, eh bien Arte vous propose une série vachement intéressante dans le cadre des
reculs
qui sortent. Ça, c'est pas nouveau. Hein, de toute façon, hein, c'était la tranche horaire juste après le journal d'Arte à partir de 20h15 jusqu'à 20h45, c'est-à-dire début du film. Des formats de 25 minutes, donc. Avec de nombreux documentaires dans tous les genres. Là, pour ce début d'année, pour cette rentrée, Arte s'intéresse plus à la télé, proprement dit, avec des reportages sur les télés du monde. On a pu voir ça ce matin.
Non, ce matin, entre 9h50 et 10h50, c'était dur de préparer l'émission, je peux vous dire.
C'est les rediffs de la semaine, donc.
Non, c'était toutes les télés du monde, ils ont fait une spéciale thématique. Elle est rediffusée vendredi à
1h25. Ouais, à 1h25, hein. Je vais en parler après, d'ailleurs.
Soirée.
Par contre, la semaine prochaine, c'est un documentaire en 5 parties. Donc du lundi au vendredi, mon gars, à partir de 20h15, et qui s'appelle Privé de télé. Et pour les plus vieux d'entre vous, ils s'en souviendront peut-être, mais une pareille expérience avait été menée il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était dans le milieu des années 80, et on avait décidé de filmer des gens à qui on virait la télé, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où les mecs viennent, ils vous embarquent la télé, et puis comment, qu'est-ce qu'on branle maintenant, quoi. Bon, on a plus la télé, qu'est-ce qu'on fout, quoi. Et ça dure un mois, comme ça. On filme, pratiquement on continue. Et ça donne des 5 extraits de 5 fois 25 minutes hein, de ce qui se passe dans différentes familles, hein, à qui on a sucré la télé, jusqu'au jour où on leur ramène la télé. Et qu'est-ce qu'ils en font? Enfin voilà, c'est assez intéressant.
Ça peut durer combien de temps,
Eh bien, 5 fois 25, hein, je te dis. Hein.
Ça a duré un mois.
Un mois.
Pendant un mois,
voilà. On a déjà fait le truc, c'était déjà passé à la télé, mais dans le cadre d'un documentaire qui faisait 1h30, un truc comme ça, c'est-à-dire un documentaire d'un seul tenant. Voilà, ça c'est tous les jours. Sinon, Arte également vous propose vendredi prochain. Et Arte, en deuxième partie de soirée le vendredi, vous propose désormais des documentaires qui sont assez top, quoi, je trouve. Hein, celui de vendredi, celui d'hier soir, là, sur les dessous, était sympathique, on va dire. Hein.
J'ai raté ça, ouais.
C'était chaud.
C'était bien, hein, c'est vraiment bien. Vendredi prochain, à 22h15, le Hollywood, le règne des séries. Sur les séries, ils sont allés interviewer et... poser des questions aux gens qui font les séries américaines. Pourquoi cartonnent à fond les manettes? Pourquoi le cinéma a décidé d'investir à fond les manettes? Tagada et tout ça par les maîtres du genre, Boschko, toute la bande.
C'est d'ailleurs assez amusant.
Ils sont tous là et ils expliquent pourquoi c'est les meilleurs du monde.
C'est amusant parce que tu vas sur le site qui est consacré justement à cette théma, arte-tv.com/tv. Tu as eu sur la page justement qui dit toutes les séries les séries qui cartonnent, etc. Ils disent préparez-vous au choc et ils te filent les liens sur les séries, sur les sites officiels pour se préparer parce que là ils vont sortir des termes très techniques. Jack Bauer.
Ouais. Alors c'est suivi à 23h10 par Twin Peaks, Firewalk With Me, le film
énorme.
Bon, alors
David Lynch.
Et suivi donc à 1h20 par toutes les télés du monde. Hein,
voilà.
Cette espèce de zapping, on va dire.
Zapping énorme d'ailleurs. Ouais, et ouais. Franchement, vous allez vous prendre un choc parce que voir le président de... je vais dire une bêtise. Vous avez le président d'un État d'Amérique centrale, j'ai oublié le nom, qui est très connu. Le mec, tous les dimanches, il fait 7 heures d'antenne sur lui.
Chavez,
au Venezuela. C'est énorme. Vous allez voir des trucs, mais vous n'y penserez même pas que.
Ouais, les tentateurs de JT, y a une pub et puis après ils vont vendre des produits pendant la pub.
Pendant la pub. Non, il y a même pas de jingle, il y a rien.
Plus de sous dans la pub que dans leur JT.
C'est énorme. C'est une très très bonne série d'ailleurs.
Et donc cette soirée du sport, c'est quand alors tu disais
c'est... Alors donc c'est vendredi prochain, hein, mais bon, toute l'été du monde, c'est à 1h20 du matin. Donc à mon avis, c'est pour ça que c'est rediffusé le samedi matin.
Vendredi,
à vérifier. Ok. Nous vérifierons. Sinon, dans le monde de la télé, eh bien, ça chauffe beaucoup, ça chauffe énormément. Ça fait déjà au moins un mois que toutes les nanas ont déjà réservé leur robe de soirée, les bijoux de chez Cartier, j'en passe, et des meilleurs, et de chez Tiffany. Pourquoi? Parce que ce soir, tonight,
in the place,
it's the night où sont décernés les Emmy Awards, c'est-à-dire les récompenses, les Oscars pour la télé, en ce qui concerne les séries. Hein, et également d'autres petits trucs. Hein, faut dire que les Oscars, nous, c'est pareil. Hein, on nous donne une dizaine d'Oscarisés et tout. Mais alors bon, là-bas, ils Oscarisent tout ce qui a rapport avec le cinéma. Hein, même le mec qui va ramener le café.
Non. Il y en a un qui n'a pas d'Oscar. Hein, le producteur.
Ouais, mais enfin.
Et
bon,
oui, c'est une réplique célèbre. Hein.
Laisse tomber. Alors les Emmy Awards qui ont lieu d'ailleurs dans le même endroit. Ça y est, dans le temps, quand c'était pas trop connu, que la télé, tout le monde disait c'est de la merde, laisse tomber, téléfilm de merde, série de merde, acteur de chiottes et tout. ça se passait dans des endroits moins huppés, mais là carrément, c'est au même endroit où il se passe les Oscars, au Shrine Auditorium de Los Angeles, donc il y a pas de problème. Il y a environ 50 Emmy qui sont décernés, ça fait pas mal, hein, quand même.
Ah oui, parce que c'est classé par genre, en fait.
Il y a les genres, il y a meilleur coiffeur, meilleure costumière, les Oscars techniques, enfin les Emmy techniques, on va dire. Ok. Ça passe sur Série Club. Non, c'est pas ce soir, c'est demain soir. Il y a un décalage horaire, donc c'est demain soir à partir de 2h du matin. Matin sur Série Club avec des commentaires de Delphine de Turckheim, qui est connue parce que c'est une de Turckheim, bien sûr, et parce qu'elle a bossé un petit peu aux États-Unis. Et c'est surtout plus intéressant parce qu'il y a Alain Carazé qui commente avec cette charmante demoiselle. Donc Carazé, bon, c'est bon, c'est du solide, c'est du costaud. On est sûr que ce sera à peu près correct. Alors les tendances, bien sûr, les tendances lourdes en ce qui concerne les futurs émisés, c'est bien entendu la série qui passe sur Canal en ce moment, Desperate Housewives. Ouais. Dans le registre de comédie, bon, attention, il peut y avoir des surprises quand même. Dans la série drama, il y a Lost qui a fait très fort, ça je vous en avais parlé la semaine dernière, Font les Manettes, mais il y a une série également à découvrir et qui pourrait vraiment casser la baraque, je dis bien casser la baraque, cette saison en France, quoique elle ne sera diffusée que par Canal, donc encodée, donc il y aura un nombre restreint de mecs, tous les mecs qui regardent Canal parce qu'ils ont pris ça, parce qu'il y a le foot, ils vont pas regarder ça. C'est bien dommage, c'est une série qui renoue avec le western, et ça risque de dégager, c'est Deadwood, ça s'appelle, et elle risque de concurrencer très fort, ça risque d'être la surprise, hein, ce qui concerne la série dramatique. Aux Emmy, tendance au niveau des comédiens en comédie, on aura Zach Braff, dont je vous ai parlé la semaine dernière, hein, Scrubs, ouais. Ou Tony Shalhoub, mais Tony Shalhoub, il a le désavantage de l'avoir déjà eu l'Emmy, donc, mais attention, Tony Shalhoub, dans Monk, hein, c'est vraiment très très bon, c'est très haut, hein, c'est très fort, hein. Voilà, donc tout ça c'est dans les au programme de ces Emmy Awards, c'est donc demain soir sur Série Club, mais il va falloir veiller, hein, à partir de 2h du mat, hein. Déjà il y a la moto demain matin, ça va être l'enfer, ça va faire des nuits blanches,
c'est, hein, comme l'autofoot, tu nous fais les pronostics et puis on verra la semaine prochaine si t'as.
Sinon à la télé cette semaine et demain soir, pour vous mettre un petit peu dans l'appétit, un petit peu d'inédit quand même, il y a pas mal d'inédit d'ailleurs, hein, avec Kojak, le téléfilm qui débarque enfin, on va pouvoir voir, c'est demain soir sur 13e rue, un téléfilm qui date de, qui a été tourné l'année dernière, donc c'est du tout récent, avec Ving Rhames, donc, hein, qui remplace le regretté Telly Savalas.
Ah, c'était un téléfilm, je pensais que c'était.
Au départ, c'est toujours un téléfilm pilote. Ouais. Voilà, au départ, on fait un pilote qui est généralement d'un format d'un téléfilm, et après, ben, on voit si on peut couper, si on peut adapter, et on réduit le format. Voilà. C'est généralement ce qui est proposé aux chaînes. Tourne ça, on propose aux chaînes, et puis voilà, non, on achète, on prend, non, on prend pas, tout, non, c'est de la merde, laisse tomber. Donc il reste le truc là. Il va y avoir une suite probablement. Ving Rhames donc et Chaz Palminteri dans ce téléfilm.
Oh là là là.
Kojak, demain soir à 20h45 sur 13e rue. Il y a de la série anglaise d'excellente qualité avec La Part du Diable demain soir sur TMC. Non, ce soir sur TMC à 22h35. L'horaire n'est pas indécent parce que là, ça charcle quand même beaucoup grave, quoi. Hein, c'est la mode des serial killers, on aime bien ça. Alors, il y en a pas qu'aux États-Unis, il y en a pas qu'en France, il y en a également en Angleterre. Hein, regardez Jeremy West. Regardez Monsieur Parker. Hein, ou le toubib là qui a dégommé 200 nanas là comme ça ouais bien qui s'est suicidé il y a pas longtemps en prison. La part du diable donc avec l'excellent acteur qui est Robson Green qu'on a pu voir dans La Fureur dans le sang et également dans une série un petit peu plus humoristique qui passe sur Canal Jimmy qui s'appelle Trust. Robson Green, hein, comédien autodidacte, en plus hein, c'est un mec qui a jamais fait d'école, alors qu'en Angleterre généralement tous les mecs, tous les acteurs, les actrices,
ouais,
ils sortent du théâtre, Shakespeare Company, enfin les gros trucs, bien carton, lui non, autodidacte, j'arrive et tout, je commence à faire le figurant et puis clac, on me propose un rôle et ça roule et il est vraiment convaincant avec Nicolas Walker hein, parce que bon, il aime bien faire équipe, tu sais le genre à deux avec des nanas, lui il préfère les nanas aux mecs, hein. Une partenaire c'est les nanas, c'est en deux parties, donc deux parties, deux épisodes de 50 minutes. Ça s'appelle Scalp, part 1 et part 2. Ça peut être très intéressant quand même. C'est ce soir donc sur TMC à partir de 22h35. Sinon, du côté des films, il y a des trucs pas mal, on va dire, avec un Alex de la Iglesia demain soir sur Arte à 20h45. C'est dommage, il va être en version française. Alors bon, c'est un peu dommage, on va dire. Mes chers voisins, sorti en l'an 2000 avec la Comunidad, c'est ça, avec Carmen Maura et Eduardo Antuna. Alors, guettez bien parce que dans tous les films, hein, c'est un petit peu tarantinien, on va dire. Hein, mais dans pratiquement tous les films de Alex de la Iglesia, il y a toujours une ou Kevin Smith aussi fait ça, ouais. Une allusion à Star Trek. Non pas là c'est Star Wars. Hein, non, Kevin Smith c'est Star Trek, il me semble. Et là c'est Star Wars. Il y a toujours une allusion à Star Wars. Vous allez voir, vous n'avez pas loupé de toute façon. Je ne vous en dis pas plus. C'est demain soir sur Arte. Il y a lundi soir une soirée Edward Norton, ça c'est pas mal parce que c'est un acteur que moi j'aime bien.
Il est vraiment excellent ce mec.
Dans Fight Club, il écrase Brad Pitt au proprio futuré.
Oui.
à l'aise, mais sans problème. Hein. Fight Club, ça vaut parce qu'il y a Edward Norton dedans.
American History X aussi.
Ah là, ben justement dans cette soirée qui nous est proposée par M6 lundi à partir de 20h50, bon, un film un petit peu dispensable, on va dire, de Gregory Oblitt. Qui nous a habitué à mieux, mais enfin quand il tournait des séries telles que NYPD Blue, mais là Peur Primal avec Richard Gere, Laura Linney, bon on passera un petit peu. Par contre American History X à 23h15, alors là c'est du bon, c'est du couillu, ça vaut le coup. Hein, y a,
c'est une putain de claque sur la société américaine.
Ouais, il y a Edward Norton, il y a Edward Furlong, moi aussi. J'aime bien, et c'est Kitch aussi. Donc vous pouvez y aller sans problème si vous ne l'avez pas vu, c'est génial, c'est excellent.
Oh, et sinon, toi, tu as pas vu le film sur les croisades là, comment ça s'appelle déjà? Oui, il y avait Edward Norton qui campait un roi lépreux sous un masque. Il faut que tu le vois parce qu'il vampirise l'écran alors qu'on voit que ses yeux. Le film de Ridley Scott, comment ça s'appelle?
Ah, oh, je l'ai pas vu.
Oh, je l'ai chroniqué en plus. Ah, oh, merde. Bon, bref.
Sinon, lundi, vous avez également une soirée Landru, si vous intéressez au Serial Killer. On y revient toujours. Bah ouais, Serial Killer français, Landru, il se pose là quand même. Avec de l'inédit et du lourd, hein, c'est ce que nous a proposé, et de la co-production, surtout de la production française. Française, mon gars. Sur TF1, avec le Landru de Pierre Boutron, c'est de l'inédit complet, avec Patrick Timsit dans le rôle titre. Alors bon, ça va être intéressant de voir ce qu'il est foutu de faire. Bon, on l'a déjà vu dans de bons rôles dramatiques. Je rappelle le film avec où justement il y a deux comiques qui jouent deux rôles dramatiques avec Farouk, non pas avec le réalisateur d'Astérix, comment il s'appelle?
Chabat,
avec Alain Chabat, mon cousin, voilà,
oui.
Le cousin.
Ah, oui, le cousin.
Hein, l'histoire de voilà, il est déjà convaincant. Corneau, voilà, c'est ça, il est déjà convaincant dans un rôle dramatique. Là, bon, Bocquet, rôle titre, Landru, hein, ça peut être rigolo avec Julie Delorme, Catherine Jacob et Catherine Arditi dans le rôle des mecs, des nanas qui se font dégommer. Et si vous n'êtes pas convaincu, à 23h le même soir sur Paris Première, on vous propose le Landru de Chabrol de 62, mon petit gars. 2h45, coproduction franco-italienne, avec Charles Denner dans le rôle titre. À l'époque, il était jeune, il était beau, et je peux dire que lui, il dépote. Dans ce film, il est vraiment excellent. Les nanas qui dégomment, y a de la bonne. Il y a Michel Morgan, un petit peu, bon, on va dire, déjà dans l'âge. Daniel Darieux, un petit peu dans l'âge. Mais alors, Stéphane Audran, hein, 62, mon gars, je ne te dis que ça. C'est sur Paris Première, lundi, à 23h. Donc, Landru de Chabrol. Sinon, il y a également bien une petite tendance Vandame qui se dessine de nouveau.
Alors,
c'est
lequel,
vraiment. Alors, on
attends,
a.
Attends. Alors, on va bien avoir un fond bien débile. Pardon.
Ouais. Il y a déjà celui de TF1. Quand c'est celui de TF1, bon, c'est même pas la peine. Hein. On l'a déjà vu 50 fois. En plus, il est vraiment pas terrible. Hein.
Risque maximum.
C'est, non. C'est le premier John Woo américain. Chasse à l'homme avec Lance Millennium Erickson et Yancy Butler. Witchblade, Yancy Butler. Mmh. Witchblade, la série. Mais par contre, on préférera quand même, c'est ce que je voulais dire moi, c'est que bon, John Woo, je crois qu'il a fait deux films également avec Van Damme.
Non, il en a fait qu'un.
Ça lui a suffi et ça nous a suffi.
C'est toi.
C'est Choyard qui en a fait deux et Van Damme, il en a fait trois.
Ouais, mais je peux dire que je préfère Choyard parce qu'au moins, bon, bah, il y a un petit peu de dérision, il y a un petit peu d'auto-humour.
Non,
il y a
du
podcast.
Piège à Hong Kong, c'est ça que tu veux?
Ouais, Knock Off, d'un monument quand même, hein, dans l'histoire du cinéma Portnawak de Choyark, double team carrément, avec Dennis Rodman.
Oui, il est retenu
Mickey Rourke,
à la con.
Ouais, Mickey Rourke, qui joue le rôle d'un truand grec, Natasha Lindinger.
Quelle merde.
Superbe, magnifique, une bagarre finale dans un espèce de colisée avec un tigre, une panthère.
Mickey Rourke en combat contre le tigre, ça vaut le détour.
C'est du n'importe quoi, absolument magnifique. Double team, donc plutôt mardi sur RTL9, plutôt que de Chasse à l'homme en deuxième partie de soirée demain soir sur TF1. Là, il n'y a pas photo de toute façon. Et Knock Off, moi j'aime bien aussi.
Ah oui, Knock Off,
la course de pouce-pouce au début.
Oui, il le fouette
imparable
avec un poisson.
Il s'en prend plein la gueule, c'est pas mal. C'est
non. Et vu l'heure, pensez qu'il est 1h20 et qu'il y a des gens qui sont à table. Hein.
Voilà, et comme il est 1h20, généralement, c'est déjà l'heure de faire ça, c'est du sport. Bon, c'est tout pour la télé en fait. Et là, dans la rubrique un petit peu magazine et magazine sportif, je vous ai fait un spécial football là. Ouais, mon gars, avec les sorties du football de ce mois-ci, les cahiers du football, c'est le numéro, 18, avec numéro spécial l'anti-guide de la Ligue 1 qui a déjà démarré, mais enfin bon, c'est assez rigolo, tu verras, hein, y a des trucs bien en style. Tu prends Olympique Lyonnais, alors l'objectif de la saison, faire la même que la précédente, ce qu'il faudra améliorer, l'image de Gérard Rouillet en France, ce qui risque d'empirer, les célébrations de titres façon kermesse de maternelle, pourquoi l'entraîneur sera viré au mercato. Alors les trucs sont, c'est des gimmicks, hein, pour chaque équipe, tu l'as. Pascolas n'acceptera pas sa théorie du crime contre l'équipe après que Carou lui manquait l'immanquable en 8e de C1, la stratégie secrète, perdre en finale de la Ligue 1 pour gagner le cœur des Français, et ce qu'on entendra dans les travées du stade, ça c'est les meilleurs, hein. Ce qu'on entendra dans les travées du stade de l'Olympique Lyonnais, qui est le con qui a cru que Pédetri remplacerait Essien. Enfin, il y en a des très bonnes, hein, si tu veux. C'est... le stade bordelais vite fait, quoi. Tu veux Bordeaux là, vite
ouais
fait,
Bordeaux
quoi.
Ouais, Girondin.
Attends, tu vois, Girondin de Bordeaux, ce qu'on entendra dans les travées du stade de Bordeaux, tu l'as déjà vu faire une passe de Nilsson. Et c'est tout de Staccabi, quoi, tu vois. À Paris Saint-Germain, ce qu'on entendra dans les travées du stade, on dira ce qu'on voudra, mais Fiorez mouillait le maillot. Voilà, tout ça, enfin, et les rubriques habituelles, bien sûr, la vignette kebab, l'équipe de le match des Dream Team. Ce mois, c'est le Borussia Dortmund contre le Spartak Moscou. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Je sais que tu vas te prendre la gueule.
C'est très très bon. Hein.
J'ai loupé la parution du numéro 1 et c'est con parce qu'il y avait la photo de Domenech avec marqué Domenech dehors. C'est les miroirs du football.
Alors, ah bah là, y a tapis,
vous connaissez pas du tout les miroirs du football. Il y avait également le miroir du sprint. Hein, c'était vachement connu, hein, dans le monde du cyclisme. Il y avait eu cette déclinaison dans les années 60 qui s'appelait le miroir du football. Mais c'était tenu par des mecs qui étaient hyper rigoureux, qui en plus étaient bien marqués par le communisme, on va dire. Hein, et hein, il y avait des histoires de socialisme et de communisme dans la composition de l'équipe et tout. Il causait de ça comme ça, du football dans les années 60, donc dans ce cahier, dans ce canard qui s'appelle Miroir du football et qui vient de ressortir. Alors si autant dans les cahiers du football on lit, et bon, ils sont très critiques, hein, quant à ce qui se passe en ce moment dans le monde du football, que ce soit en France ou à l'étranger, et on les comprend un petit peu, hein, que ils constatent un petit peu toutes les dérives qu'il peut y avoir dans le football, on se fend quand même bien la poire. C'est moins le cas dans Miroir du football, ou alors c'est vraiment un petit peu perd la rigueur quand même, avec quand même de bonnes signatures, on va dire. Bon, la plupart des gens qui signent sont inconnus, hein, je le dis franchement. Pour la maquette, pour l'instant, on va dire laisse à désirer. Hein, ça fait un petit peu fanzine du riche, mais quand même, bon, c'est assez argumenté. Le deuxième numéro vous propose un grand article qui s'appelle Le Grand Bluff. Il nous ment, tu vois, un petit peu le truc. Mais enfin bon, c'est quand même. T'as quand même beaucoup d'infos hein, qui sont vérifiées ou qu'on a déjà pu lire ailleurs hein, de toute façon quoi. Et il y a également la chronique de Jean-Marc Guillou, pourquoi je suis favorable à l'arbitrage vidéo. Bon, c'est que des trucs bien polémiques, bien carton comme ça, mais ça fait vraiment straight, hein, c'est-à-dire que là, bon, tu rigoles pas beaucoup, quoi. Hein, on va dire, faut vraiment être bien dedans. Et il y a également mensuel toujours, hein, SoFoot de ce mois-ci avec, t'as vu qui est en couverture.
Ouais, Beckham,
bon, c'est sosie. avec Elbex marqué sur les fesses et avec un gros article qui concerne les gays avec les footballeurs, la tendance gay. Il y a également un article sur Ribéry, un gros article sur le retour de Zidane qui est pas mal, hein, qui vaut le coup, un bon article sur Kalou, un article sur les sosies de footballeurs. Ça c'est assez rigolo, les sosies de Barthez, de Trezeguet et tout ça, qui sont vraiment des nuls en France. Alors qu'en Angleterre, il y a deux sosies officielles de Beckham qui se gagnent des thunes. Mais alors à fond les manettes, 30-35 000 euros par an, enfin peinard, à faire le sosie. Simplement à faire le sosie, à tel point qu'en Angleterre, ils en viennent à carrément être employés officiellement par Beckham de temps en temps quoi, pour faire la diversion. Alors que bon, les mecs en France, ils rament carrément. Ouais. Le sosie de Trezeguet, par exemple, il paye carrément ses voyages pour aller faire ses émissions de télé et tout quoi. Il est pas rétribué, il est pas défrayé que dalle et tout. Enfin bon, un autre monde. Tout ça, c'est donc dans SoFoot. Il y a une excellente interview, j'avais oublié, de Jean-Marc Furlan, l'actuel entraîneur de Troyes, hein, qui est un mec qui pense à des idées de foot qui sont assez intéressantes, on va dire. Voilà, tout ça dans le SoFoot. Voilà, c'est tout.
Eh ben, très bien.
Ouais, là, on fait comme les pros, là, on est en train de tasser les feuilles là sur la table, voilà. Hein. Mais ça, en général, c'est pendant le générique et on peut dire que Supplément Week-end se termine. Du sport, lui, passe de l'autre côté pour continuer, toujours à vous parler de sport, hein, puisque c'est le nom de son émission, du sport.
Ouais, ouais.
Voilà. Ceci dit, donc, sachez qu'il y a le forum des alternatives pour la musique qui est co-réalisé par je vais me retrouver dans mes qui est co-réalisé voilà par Another Records et Sambaresi. Ça a lieu à la chapelle qui est 36 rue Daniel Casanova et à Sambaresi 38 rue Roquelaine. Radio FMR est présent, il y a plein de labels, il y a SSS dont on a passé l'un des morceaux et plein d'autres choses en indépendant. Thomas, toi, tu voulais parler donc de la fête des fleurs.
Oui, non, c'est le festival Les Plantes dans leur écrin qui aura lieu au jardin Compense Caffarelli.
Voilà.
Et tout le week-end.
Tout le week-end, là aussi, donc une bonne occasion de sortie. La semaine prochaine, c'est le départ de printemps de septembre. On ne sait pas ce que va devenir Supplément Week-end, mais ça va être très arty, assez énorme et même carrément explosif. Bref, ça va être un bazar complet. Ceci dit, c'est un peu normal, hein, vous me direz. Ah bah tiens. Si vous avez manqué le début de Supplément Week-end, le résumé de l'émission, Thomas, je te prie.
Donc il y a eu un rectificatif concernant les bonus du DVD Les Ailes Grises. On a eu un gros plantage, joueur de flûte ou joueur de tambour, on ne sait toujours pas. Un cassage de Léa Parker, la BD par Xavier, un berdage de CD, honteux. Pendant l'émission, un zapping, la mort de Raymond Marie qui a été honteusement zappé également. Et on a eu la présentation en direct live du cahier du sport. On a pu le toucher même.
Voilà.
Et j'aurai aussi une petite pensée pour Sabrina qui va être bien occupée ce week-end et à montrer ses petites aquarelles.
Moi, voilà. Je la dédie à Iman, cette émission. Voilà, nous avons dépassé d'exactement 29 minutes. En être progrès peut mieux faire. Vous pouvez réécouter tous les précédents numéros de Supplément Week-end sur le site web de la radio www.radio-fmr.net, voire même la télécharger dans votre baladeur automatiquement grâce au logiciel Idoane. Je cède la place, Vasidus.
Ciao.
Ciao.